Alors, quand on évoque la chimie en cuisine, on pense tout de suite aux additifs et autres horreurs de tricatelle dans les loups la cuisse, par exemple. Et pourtant, du navarin d'agneau au risotto de petits pois, eh bien, la chimie, elle est partout, naturelle. Il s'agit de molécules qui se combinent pour nous régaler, quand c'est réussi. Alors, pour nous expliquer tout ça, pour nous expliquer la science dans l'assiette, j'ai invité Christophe Lavelle, qui est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et au CNRS, s'il vous plaît. Bonjour Christophe Lavelle.
Bonjour Laurent.
Et
bonjour.
Merci d'être avec nous. Je ne bonjour, vous présente oui. pas Charlotte Langrand, le journal du dimanche. David Radgeber, le chef de l'assiette dans le 14e arrondissement qui est des nôtres aujourd'hui. Et vous Christophe, vous venez nous voir avec ce beau livre « Molécules, la science dans l'assiette aux ateliers d'Argol ». Un éditeur qui fait de très beaux livres et celui-ci en fait partie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une molécule déjà, Christophe? On va commencer par la définition.
Alors c'est un jeu de Lego en fait. Quand on veut construire tout notre environnement, on assemble des briques. Les briques s'appellent des atomes. On les a appris dans notre jeunesse avec le fameux tableau de Mendeleïev qu'on a essayé d'apprendre plus ou moins par cœur. Ils représentent toutes les briques disponibles. Et à partir de ces briques, par exemple si je prends deux briques d'hydrogène, donc deux atomes d'hydrogène et puis un atome d'oxygène, je les mets ensemble, je fabrique une molécule. Un assemblage, en l'occurrence, une molécule d'eau.
H2O.
H2O. Voilà, donc il y en a comme ça qu'on connaît.
Qu'on a retenu il y a quelques années.
Quand même, comme quoi ça valait le coup d'aller à l'école. Et à partir de là, bien sûr, on fabrique des molécules aussi complexes qu'on veut. La plus complexe étant l'ADN, par exemple.
Glycérol, lécithine, eugénol, voilà les noms qui chapitrent votre livre. On se croirait dans un laboratoire. Alors tiens, une question qu'on se pose tous, on l'a tous vu à la maison, ça c'est de la chimie. Quand on coupe une pomme, une poire ou une banane, eh bien le fruit brunit. Comment faire pour empêcher un fruit de brunir? Ça c'est le genre de question que vous soulevez dans ce livre, par exemple.
Tout à fait, c'est une question du quotidien finalement. Si ça brunit, en l'occurrence ici, c'est une réaction d'oxydation. Et donc, dans sa tête, on se dit si c'est oxydation, c'est à cause de l'oxygène. Et donc, il va falloir mettre quelque chose qui capture l'oxygène, donc un antioxydant. Et ça, c'est pas difficile à trouver, puisque la plupart des fruits et légumes sont riches en antioxydants. Et souvent, on prend un jus de citron, par exemple, qui est riche en acide ascorbique. Et l'acide ascorbique est un antioxydant des plus puissants qu'on puisse trouver naturel.
Et les antioxydants nous veulent du bien parce qu'ils permettent de retarder le vieillissement de nos cellules aussi,
en plus.
Autre question alors que j'adore, pourquoi le magret est-il rouge et le blanc de volaille blanc? Voilà, ça c'est des vraies questions.
Oui, effectivement, ça ne va pas forcément changer notre manière de cuisiner, mais c'est toujours pas mal.
De le savoir, de briller en dîner.
Et oui, tout ça, ça va dépendre de la structure des fibres musculaires. La différence, enfin il y a plein de différences entre la poule et le canard, mais enfin quand même la principale, c'est que le canard a priori vole quand même pas mal de temps. La poule ne vole plus trop. Et ça, ça a changé en termes évolutifs les choses, c'est-à-dire que les fibres musculaires ne sont plus les mêmes. Dans une poule, les cuisses sont foncées parce qu'elles sont très riches en myoglobine. La myoglobine, c'est un peu comme l'hémoglobine, on reconnaît un peu le même vocabulaire, ça sert à apporter de l'oxygène. Or, les poules, quand elles passent leur temps à marcher, elles ont besoin en permanence d'oxygène dans leurs muscles, des pattes, et donc ces pattes sont riches en myoglobine. Par contre, les ailes, elles s'en servent plus, ou quasiment plus. Donc, les fibres musculaires des ailes ont perdu en fait leur concentration en myoglobine et sont devenues blanches. Tandis que celles des canards qui passent leur temps à voler, elles sont restées rouges parce qu'ils continuent à avoir besoin de cette
moins
myoglobine.
Moins de sang qui circule à outrance.
Mais c'est pas du sang, justement, c'est dans les muscles la myoglobine.
Ah, c'est ça.
Donc c'est pour ça. Ces animaux, ils sont saignés.
Oui, c'est ça.
Mais ils sont quand même rouges et rouges de la myoglobine. Et on peut avoir des marqueurs plus ou moins foncés suivant ce que l'animal a utilisé régulièrement ses muscles ou pas.
Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi l'absinthe peut nous aider en temps de pandémie.
C'est vrai, mais on a vu Philippe de Villiers dire qu'il s'était soigné au pastis,
tout à fait.
Professeur Raoult. Tout est possible.
L'absinthe avec l'alcool peut nous aider à supporter, n'est-ce pas, le marasme du confinement. Mais c'est pas vraiment une bonne raison médicale.
D'accord.
L'absinthe, un peu comme d'ailleurs le genépi ou la chartreuse, est riche en l'occurrence en plantes qu'on appelle les armoises. Et dans ces armoises, on va trouver un certain nombre de composés, dont la thuyone ou encore l'absinthine, la bien nommée. Alors la thuyone, c'est plutôt un psychotrope, c'est pour ça que l'absinthe était interdite pendant longtemps, pour une bonne raison.
L'alcool
qui rend fou, parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir jusqu'à 300 mg de thuyone par litre. Or, à partir de 3 mg, on commence à délirer un peu. Aujourd'hui, l'absinthe est revenue depuis un décret de 1988, on a de nouveau le droit, mais à limiter à 30 mg par litre. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait boire 100 ml d'absinthe pour commencer à ressentir les effets. Or, vu que l'absinthe titre à 70 degrés, on aura d'autres effets avant, a priori. Mais donc, au-delà de la thuyone qui rend un peu fou, il y a cette absinthine qui fait partie de la famille des molécules dans lesquelles on va retrouver la chloroquine.
La fameuse.
Ah, la fameuse, d'accord.
Et en fait, il se trouve que dans un crible effectivement pharmacologique, l'absinthine ressort dans les molécules qui directement interagissent avec le SARS-CoV-2, qui est donc le virus responsable de la Covid. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à aller fouiller de ce côté-là.
Allez, un petit verre d'absinthe avec modération en écoutant La Table des Bons Vivants. Christophe Lavelle, molécules, c'est passionnant. Ne bougez pas, on continue d'en parler. Hein. Tiens, autre question. Pourquoi certains détestent la coriandre? Pourquoi ça ne sert à rien de boire de l'eau pour éteindre le feu du piment? Eh bien, on continue de faire le tour des molécules avec Christophe Lavelle. A tout de suite et bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. Petite absinthe?
Oui.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Eh bien, avec mes bons vivants, justement, Charlotte Langrand et David Radgeber, le chef du restaurant L'Assiette à Paris, nous revoilà en compagnie de Christophe Lavelle, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et au CNRS. Vous êtes un spécialiste de l'alimentation. Cher Christophe, vous nous expliquez la science par l'assiette et c'est vrai que ça fait du bien. On parle molécule, tiens, depuis un petit moment. C'est quoi votre molécule préférée à vous?
C'est un peu politiquement incorrect parce que j'ai un faible pour l'éthanol quand même.
L'éthanol qui est dans l'alcool, voilà, c'est ça.
Oui, c'est
ça. Forcément.
Donc, il ne faut pas le dire.
Non,
c'est pas
on n'en parle pas. Non, on a pu parler de l'absinthe juste avant. Alors tiens, vous parlez donc des molécules dans votre livre. Hein. On connaît tous quelqu'un qui n'aime pas la coriandre. La répulsion pour la coriandre, on a déjà parlé ici, mais c'est vrai que ce serait génétique, hein, en fait.
Alors, il y a une composante génétique en fait dans nos récepteurs olfactifs. On ne les exprime pas tous de la même manière. Il y a un récepteur qu'on appelle OR6A2, c'est son nom scientifique, qui est particulièrement sensible à justement à certains composés qu'on va trouver dans la coriandre. Et donc, les gens qui expriment beaucoup ce récepteur sont, on va dire, presque trop sensibles à ça. Et donc, ça rend cette odeur assez désagréable. Et ça leur rappelle l'odeur de punaise pour certains, parce que c'est les mêmes aldéhydes, c'est le même type de molécules qu'on va retrouver dans les punaises. Donc, quand on écrase une punaise, ceux qui ont cette odeur dans le nez, il faut savoir qu'il y en a, en mangeant la coriandre, ils ont exactement cette odeur.
Oui, mais moi, je connais plein de gens qui n'aiment pas la coriandre. Vous aimez la coriandre, David?
J'adore.
Charlotte?
J'adore ça aussi. Oui,
voilà. Donc, mais ça pourrait être génétique aussi. Ça veut dire que c'est véhiculé par nos anciens.
Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça,
transmises par les gènes. Ouais. Un autre débat d'actualité qui nous concerne pas tous, mais presque, la question de l'intolérance au gluten. Je ne parle pas de la maladie cœliaque, hein, je parle de l'intolérance là. Et vous dites dans ce livre, et ça c'est passionnant, que cette intolérance, elle n'est pas forcément due à la nature du blé.
Ouais.
Je me souviens de débats qu'on a fait ici justement, où on a expliqué que les blés modernes étaient peut-être trop travaillés pour que cette protéine de gluten soit devenue intolérante. Mais vous dites que ce n'est pas ça, ce n'est pas une question de blé ancien et blé moderne.
En tout cas, ce n'est pas le facteur principal, puisqu'il y a cette fausse idée, effectivement, on se dit les blés modernes sont plus riches en gluten, d'où le problème. C'est l'inverse. Ils sont plutôt moins riches en gluten pour une bonne raison qu'une raison agronomique qui fait que la plante a beaucoup de mal à fabriquer le gluten. Ça coûte de l'énergie pour faire du gluten. Or, si on veut un blé à croissance rapide, ce que veut l'agro-industrie, on a plutôt un blé qui est moins riche en gluten. Par contre, là où il faut aller chercher là, sans doute une des causes plus importantes, c'est la manière de travailler le pain. Or, la corrélation fait que souvent, quand on a des blés industriels, on les travaille sur des fermentations rapides, donc des pains blancs.
Avec des levures.
Avec des levures. Tandis que dès qu'on va travailler des blés anciens, on a tendance à les travailler avec une fermentation lente, type levain, avec beaucoup d'acidité, puisqu'on a ces bactéries lactiques qui vont travailler. Or, c'est plutôt ça qui aura un effet, c'est-à-dire que c'est ces fermentations lentes et cette acidification du pain qui permettrait d'une certaine manière une sorte de prédigestion du gluten qui faciliterait son assimilation.
Le rôle du levain qui est capital, mais c'est vrai.
Exactement.
Vous ballonnez moins après un pain au levain ou pas
Moi, je suis quelqu'un de sensible, vous savez. Mais moi, j'adore le côté, ce qu'on appelle l'amer, le levain, on appelle l'amer. Oui. Moi, j'adore. C'est ce qui donne en fait ce côté.
Meilleur. Ouais.
L'acidité, comme vous dites,
l'acidité du levain. Ouais.
Mais c'est vrai que.
C'est grosse tourte de pain, là.
Et puis un pain au levain, en plus, on va le conserver plus longtemps. Il va être.
Grâce à cette acidité.
Grâce à cette acidité.
Il va apporter tout ça.
C'est tout bénéf, en fait.
C'est tout bénéf. Et on va faciliter aussi tout ce qui est minéral. On va l'assimiler beaucoup mieux dans un pain au levain parce que ça facilite l'action de ce qu'on appelle des phytases qui vont déstabiliser l'acide phytique. L'acide phytique, c'est un vrai problème des gens qui mangent des céréales complètes parce que ça capture les minéraux. Donc, quand on mange des céréales complètes dedans, c'est bien, c'est riche en magnésium, c'est riche en calcium, etc. Le problème, c'est qu'en général, c'est aussi riche en acide phytique, donc ça ne marche pas.
Christophe Lavelle, une grande vérité qu'on n'applique jamais, pourquoi boire de l'eau ne sert à rien quand on a mangé un plat très pimenté?
Ça ne sert à pas grand-chose parce que la capsaïcine, qui est la molécule qui donne son brûlant justement au piment, n'est pas du tout hydrosoluble. elle est ce qu'on appelle liposoluble, c'est-à-dire qu'elle a besoin de matière grasse pour être capturée.
Donc plutôt un verre de lait qu'un verre d'eau.
Plutôt un verre de lait, et en plus, le lait, il apporte des protéines, des caséines, qui elles aussi sont capables de capturer cette capsaïcine. Donc le mieux, c'est encore une crème glacée.
Ou du pain, non ? Du pain ?
Du pain, c'est pas très efficace.
Elle est contente, Charlotte, elle adore les crèmes glacées. Elle va nous parler de crème glacée dans un instant, donc elle se
crème
régale
glacée,
de savoir.
C'est idéal.
Elle va renforcer les plats pimentés pour pouvoir manger des glaces.
Exactement.
Voilà. Voilà un bon argument.
Manger des aubergines et des myrtilles, c'est bon pour la vue. Alors, vrai ou faux ?
Alors, c'est ce qu'on raconte du fait de la concentration en anthocyanes et anthocyanidines qui, effectivement, auraient une bonne interaction avec tous les bâtonnets.
On mangeait beaucoup, non ?
Ça fait partie un peu des légendes urbaines quand
des
même.
Kilos.
Il semblerait que l'effet clinique soit quand même assez faible. Mais ça ne peut pas faire de mal, en tout cas.
Mais voilà, une bonne confiture de myrtille, c'est bon pour les intestins, les myrtilles aussi.
En plus.
Votre livre, il est passionnant, Christophe Lavelle. Ça s'appelle « Molécules, la science dans l'assiette » aux éditions Les Ateliers d'Argol. Merci d'être venu nous en parler ce samedi matin. Et on vous retrouve avec toutes ces molécules passionnantes dans ce livre.
Et gourmandes,
absolument.